Passez une bonne journée, 8h30 précise, vous écoutez France Culture, tout de suite les chemins de la connaissance, suite de la série de Marie-Christine Navarro intitulée « Les enjeux de la bioéthique, la chair et la pierre ».
De quoi suis-je la semence? Semence de choses. Semence de ces mêmes grandes vagues d'amour neutre. Moi, une personne, je suis un germe. Le germe n'est que sensible. C'est son unique inhérence particulière. Le germe fait mal. Le germe est avide et alerte. Mon avidité est ma fin la plus primordiale. Je suis pur parce que je suis avide. Du germe que je suis, et fait aussi cette matière joyeuse, la chose, qui est une exigence satisfaite du seul fait de se produire, profondément occupée simplement à se produire. Et le processus vibre tout entier. Ce morceau de chose à l'intérieur de l'écrin est le secret du coffre. Et le coffre lui-même est fait du même secret. L'écrin où se trouve le joyau du monde, l'écrin aussi est fait du même secret. Ah, et tout cela, je ne le veux pas. Je hais ce que j'ai réussi à voir. Je ne veux pas de ce monde fait de choses. Je ne veux pas. Mais je ne peux m'empêcher de me sentir tout amplifié à l'intérieur de moi par la pauvreté de l'opaque et du neutre. La chose est vivante comme des herbes. Et si cela est l'enfer, c'est le paradis même. Le choix m'appartient. C'est moi qui serai ange ou démoniaque. Si je suis démoniaque, ceci est l'enfer. Si je suis ange, ceci est le paradis. Ah, j'envoie mon ange pour débroussailler le chemin devant moi. Non, pas mon ange, mais mon humanité et sa miséricorde.
Volonté de savoir et volonté de puissance, le Paris Prométhéen, avec vous Jacques Testard, qui êtes directeur de recherche à l'INSERM, responsable du laboratoire de FIV, comme on dit, à l'hôpital Antoine Béclair à Clamart. Alors cette musique indienne, bien sûr, qui est là pour vous rappeler quelques souvenirs, les souvenirs des premières fécondations in vitro que vous faisiez dans une atmosphère quasi religieuse, de sacralisation d'une cérémonie, vous aviez l'impression de transgresser à l'interdit à ce moment-là?
Non, je crois pas, non. On avait l'impression de jouer avec quelque chose de plus fort que nous et on perdait tous les jours. Donc jusqu'à ce que ça devienne un succès et que ça ait un effet médiatique. Et là, tout s'est retourné, on a pris conscience de beaucoup de choses, enfin certains d'entre nous. Jusque-là, c'était un enjeu entre le chercheur et la nature, on peut dire au sens large.
Oui, mais cependant, vous avez pris conscience très vite que vous deveniez tous, René Friedman et vous en particulier, à la fois le père et sans doute la mère de la petite Amandine.
Oh, personnellement, j'ai jamais cru être... Bon, on m'avait jamais dit encore que j'étais la mère. Mais c'est peut-être plus juste, effectivement, que le père, mais les deux, je pense, sont faux. C'est pas par... Enfin, je pense qu'il faut quand même rappeler que cet enfant-là, comme les autres, ont des parents. Que bien le fait sûr. Qu'il n'ait pas été conçu dans un lit, mais dans un laboratoire, je parle de l'enfant... ne change rien au fait que les parents sont les parents comme toujours, et c'est complètement abusif de nous appeler les parents de ces enfants-là.
C'était au niveau symbolique hein, que je parlais,
oui,
évidemment.
Oui, bien sûr, mais je refuse...
La paternité, oui, cette paternité-là. Oui. Alors aujourd'hui, vous vous préparez à sortir un livre, fin avril, un livre collectif, une réflexion collective qui essaie de mettre sur la scène, de faire avancer une morale laïque pour la cité. Ce livre collectif sortira chez François Bourin et s'intitulera Le magasin des enfants, donc tout un programme. Et je dois dire que dans ce livre que vous préfacez, que vous ouvrez, vous remettez en cause un principe fondamental, c'est-à-dire le principe qui, depuis Galilée, n'a plus été remis en question et qui voudrait que le savant puisse poursuivre
poursuivre ses recherches sans aucune limite. Et vous me remettez en cause aujourd'hui cette limite.
Oui, je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument remettre en cause, parce que si on parle de Galilée ou des savants qui ont suivi, il y en avait quelques-uns chaque siècle qui travaillaient comme des artisans, chacun dans son coin, avec des moyens limités, et assez peu d'aide de l'extérieur, c'était des artistes plutôt. Aujourd'hui, le chercheur est loin d'être un savant, parce que d'abord, il est très spécialisé, il sait à peu près rien sur le monde, mais il sait beaucoup sur peu de choses.
Oui, c'est devenu un technicien.
Et c'est devenu un technicien supérieur. Et surtout, il agit dans des structures finalisées, qui sont subventionnées. Évidemment, c'est les gens qui paient des impôts. Ensuite, ça passe par des organismes d'État de recherche, ou voire par des organismes privés. Et c'est des structures énormes qui ont pour but, finalement, de mettre au point des technologies. Et c'est des espèces de fourmilières dans lesquelles s'agitent des hyper-spécialistes qui n'ont plus rien à voir, je crois, avec des savants.
C'est-à-dire qu'on ne peut plus contrôler aujourd'hui les recherches, en fait.
Ben, c'est contrôlé relativement. Ce qui est contrôlé, c'est l'efficacité des recherches pour produire des technologies compétitives. Ça, c'est l'argument dans le privé ou dans le public. À ce moment-là, il ne s'agit pas du tout de soif de connaissances. Ça m'horripile toujours quand j'entends dire on ne peut pas arrêter le besoin de l'homme de chercher. Il ne s'agit pas de chercher pour connaître, il s'agit de chercher pour agir, pour maîtriser.
Aujourd'hui.
Donc, à ce moment-là, on a le droit de poser le problème. Qu'est-ce qu'on veut maîtriser et pourquoi ?
Oui, alors quand vous parlez de compétitivité internationale, il faut savoir aussi que l'argument qui revient très souvent dans les colloques auxquels on assiste en ce moment, c'est si nous ne le faisons pas, eux le feront. Eux, sous-entendu, bien entendu, les Américains, et nous serons à la traîne. Il faut rappeler quand même que des enjeux financiers sont énormes, puisque par exemple aux États-Unis, le commerce de sperme équivaut à peu près à 200 millions de dollars.
Oui, mais vous conviendrez avec moi qu'il ne s'agit pas d'une recherche. Le commerce de sperme est du commerce comme le commerce de petits pois, c'est la même chose. Enfin, c'est beaucoup plus grave, mais c'est pas de la recherche, ni de la science, ni de la soif de connaissance. Mais la compétition n'est pas forcément avec les Américains, hein. Elle est aussi avec les Japonais, avec les Anglais, avec d'autres pays. Effectivement, on pourrait dire que la position que je défends est un peu suicidaire pour ce qui est de notre pays. Si on veut être trop moraliste vis-à-vis des recherches, on prend du retard. C'est déjà un petit peu arrivé. C'est un choix.
Alors justement, quand vous dites « on pourrait m'accuser d'eux », on vous accuse déjà, et vous le savez, pas seulement vous, mais par rapport aux gens qui essaient de penser cette situation qui est impensable, c'est l'accusation d'obscurantisme qui revient et qui est extrêmement dangereuse. C'est-à-dire, on s'aperçoit même dans ce pays, lorsque l'on commence à remettre en cause effectivement la toute-puissance de la science, c'est-à-dire de cette espèce d'ogresse qui est là au devant de la scène, immédiatement l'accusation d'obscurantisme réapparaît.
Oui, quand j'entends le mot obscurantisme, je pense à l'Inquisition. Je ne dis pas qu'on m'a torturé, comme ça s'est fait sous l'Inquisition, mais ça évoque tout à fait le fait que la science soit devenue la religion d'aujourd'hui, qu'elle est imparable, qu'elle est indiscutable, et qu'il faut la servir. Et c'est quelque chose qui ne me paraît pas du tout évident.
Oui, d'autre part, cette transformation du médecin et du scientifique en grand prêtre est tout à fait, je dirais, nouvelle dans notre société, et elle permet donc des dérapages. Et ces dérapages, vous les avez analysés en particulier dans ce qu'on appelle la procréation médicalement assistée. Alors, vous êtes un spécialiste de la procréation médicalement assistée. On peut rappeler très brièvement quelques stades, c'est-à-dire que la première insémination artificielle a été faite en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle. Ça n'a pas eu de suite, ça n'a pas intéressé à l'époque les scientifiques. Et puis, il y a 25 ans, on a fait donc des inséminations artificielles avec donneurs. Et enfin, on a fait la fécondation in vitro. Et 9000 enfants, à peu près aujourd'hui, sont nés de cette fécondation en France, de cette fécondation in vitro, dont 200 à 300 nés d'un œuf congelé.
Environ 300, oui.
Voilà. Alors, les premiers problèmes que l'on peut cerner autour de cette procréation médicalement assistée, c'est d'abord, je crois, la difficulté de cerner la stérilité. Au fond, qu'est-ce que c'est que la stérilité ? On ne sait pas très bien.
Ah oui, si on veut donner une définition objective, la stérilité, c'est l'impossibilité d'avoir des enfants. Et en général, ça se constate de façon indiscutable à la fin de la période de reproduction d'un couple. Ils ont eu des enfants ou ils n'en ont pas eu, à condition bien sûr qu'ils aient cherché à en avoir. Alors, si on veut, d'une façon prédictive maintenant, parler de stérilité d'un couple, il faut avoir une démonstration que ce couple ne peut pas avoir d'enfants. Par exemple, que le mari n'a pas du tout de spermatozoïdes ou que la femme n'a pas de trompe. Donc la fécondation est impossible. Il peut y avoir d'autres causes, mais c'est les principales. À ce moment-là, on peut parler de stérilité. Mais si un couple n'a pas d'enfants pendant 2 ans, malgré des rapports à peu près réguliers, on parle aujourd'hui de stérilité et c'est complètement abusif. Il s'agit d'une infécondité qu'on constate, on parle aussi d'infertilité. On constate à un certain moment que malgré le désir d'enfant, ce couple n'a pas pu avoir d'enfant. Ça ne veut pas dire que ce couple est stérile. Alors il y a toute une dérive du vocabulaire. Aujourd'hui, même dans les textes officiels, que ce soit au comité d'éthique, que ce soit dans les projets de loi, on parle de stérilité sans définir ce que c'est, ce qui me paraît très grave, parce que si dans la loi, on met des mots qui n'ont pas de signification, qui ne sont pas définis, alors on va vers n'importe quoi.
Oui, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, la fécondation in vitro qui était là pour réparer quelque chose chez certains individus, répondra à toute demande, quelle qu'elle soit.
Oui, il suffit de donner un chiffre. La fécondation in vitro, quand même, elle a été inventée par les Anglais d'abord, et beaucoup de pays ont pris la relève. Elle a été inventée essentiellement pour parer à un problème féminin qui est l'absence de trompes, ou des trompes bouchées. Donc l'ovule qui arrive de l'ovaire par en haut ne peut pas rencontrer le spermatozoïde qui arrive par le vagin par en bas. Alors c'est simplement une espèce de tuyauterie, on fait ça dans une éprouvette, puis on remet l'œuf dans l'utérus. Aujourd'hui, ces cas-là représentent moins de 20%, c'est-à-dire stérilité tubaire vraiment absolue, vérifiée, moins de 20% des cas traités en fécondation in vitro en France, et pareil dans les autres pays. Donc il y a visiblement quelque chose qui s'est passé, et on bâtit stérilité d'autres choses, dont certains cas effectivement sont aussi de la stérilité, mais dont au moins la moitié ne sont qu'une infécondité relative.
Alors une autre conséquence qui est très grave, selon vous, dans la fécondation externe, parce qu'il s'agit d'une fécondation externe en dehors, dans un premier temps, du corps féminin, c'est que enfin l'œuf peut être accessible à l'examen. On peut à ce moment-là le regarder, l'observer, pourquoi pas expérimenter, pourquoi pas le transformer, pourquoi pas dresser la carte génétique de cet œuf humain.
Absolument. Depuis longtemps, on savait déjà regarder l'œuf des grenouilles et de quelques autres bêtes parce que la fécondation est externe et l'œuf est disponible dans les mares ou dans les milieux de culture. Et aujourd'hui, l'œuf des mammifères, ça a commencé il n'y a pas tellement longtemps finalement. Il y a une trentaine d'années qu'on a commencé à prendre l'œuf des mammifères, à féconder in vitro et à pouvoir travailler dessus. Ça arrive aujourd'hui avec l'œuf humain et ça ouvre un nouveau champ de recherche dans des buts thérapeutiques qui pose quand même beaucoup de problèmes.
Alors lesquels, selon vous ?
Eh bien, qui pose beaucoup de problèmes parce que il faut le lier, si vous voulez, avec... Si, par exemple, la femme était restée un mammifère mono-ovulant, comme elle est naturellement, c'est-à-dire qu'elle émet un ovule tous les mois. Et si c'est à partir de cet ovule qu'on essayait de faire un embryon pour in vitro, pour induire la grossesse, ce problème ne se poserait pas. Mais la femme est devenue récemment un mammifère polyovulant.
Déjà, c'est une définition de la femme qui est contestable, enfin, en tant qu'espèce, vous voulez dire, là.
Oui, c'est-à-dire,
logiquement.
Ça, évidemment, ça ne s'applique pas à toutes les femmes, mais à celles qui vont dans les centres de procréation médicalement assistée. Elles sont devenues, et pas seulement pour la fécondation in vitro, mais aussi pour l'insémination artificielle, pour d'autres techniques que je ne veux pas détailler ici, elles sont devenues systématiquement mammifères polyovulants, c'est-à-dire qu'avec des hormones, on induit l'ovulation, non pas d'un ovocyte, mais d'une dizaine, en moyenne.
Pour qu'il y ait plus de chances d'être enceinte.
L'argument est celui-là, pour qu'il y ait plus de chances qu'il y ait au moins un fécondé et donc d'avoir une grossesse. Mais on se trouve devant une situation dans la fécondation in vitro où on obtient couramment 3, 4, 10, voire 20 embryons pour le même couple, pour une tentative. Donc c'est pourquoi on a congelé les embryons qu'on appelle surnuméraires pour offrir une chance supplémentaire au même couple de grossesse ultérieure si on n'obtient pas la grossesse après avoir transféré dans l'utérus les embryons frais du même cycle. Mais il se trouve que ces embryons ne sont pas toujours repris par les couples. Il se trouve que soit le couple veut les donner à un autre couple, par exemple, ça pose encore un problème. Soit le couple vous nous dit, faites-en ce que vous voulez, vous pouvez les détruire, vous pouvez...
Expérimenter.
Mais ce qui, si vous voulez, ça c'est l'état actuel de la question, mais ce qui va devenir plus important, c'est quand on va disposer de moyens pour reconnaître l'identité de l'œuf. Pas tout, hein, la presse a parlé de la couleur des yeux, de l'intelligence, non, c'est pas à l'ordre du jour. Mais le sexe, c'est à l'ordre du jour, on sait déjà le faire. Et beaucoup d'autres choses, des anomalies qu'on pourra reconnaître.
La prédisposition à certaines maladies qui pourraient surgir dans 40 ans lorsque l'enfant sera adulte.
Alors imaginez que vous avez 10 embryons pour un couple et qu'en fait il n'est pas raisonnable d'en mettre plus de 3 dans l'utérus. Parce qu'autrement on risque des grossesses multiples avec beaucoup de problèmes. Eh bien il y en a donc 7 qui sont de trop. Au lieu de les éliminer au hasard comme on fait aujourd'hui, on les éliminerait à partir de cette carte d'identité, c'est-à-dire qu'un ordinateur vous répondrait après avoir fait agir des sondes génétiques et vous donnerait la description des embryons numérotés de 1 à 10 et puis les gens choisiraient avec l'aide des médecins qui leur expliqueraient ce que ça veut dire. Là, c'est quelque chose qui me paraît un changement total de cap dans la procréation médicalement assistée.
C'est-à-dire qu'il s'agit là d'un eugénisme qui ne dit pas son nom.
Exactement. Et il s'agit en même temps d'une sollicitation pour des couples qui n'ont absolument plus rien à voir ni avec la stérilité ni l'infécondité. Sollicitation à venir aussi dans les hôpitaux ou les cliniques pour bénéficier de cette technique et s'assurer d'avoir un enfant qui correspond à leurs vœux.
Oui, d'autant plus que vous dites très bien dans votre livre, ce livre qui va sortir bientôt, que l'œuf humain a une particularité par rapport à l'œuf animal. C'est-à-dire qu'en fait, dans tous les œufs humains qui sont procréés, enfin créés, il y a un pourcentage très important d'œufs qui sont déviants.
Il y a davantage, effectivement, dans l'espèce humaine, d'embryons, je dis embryons pour parler de l'œuf déjà fécondé, qui sont d'ovocytes, de spermatozoïdes, et du produit des deux, du mariage des deux, qui est l'œuf ou embryon, il y en a davantage, effectivement, qui sont déviants du simple point de vue du nombre de leurs chromosomes, mais certainement aussi du point de vue de gènes qu'on ne sait pas encore bien analyser. C'est donc, on peut dire, une particularité de notre espèce, qui tient beaucoup, je crois, à son comportement, c'est-à-dire procréation tardive, c'est-à-dire espace entre les rapports sexuels, c'est-à-dire aucune relation entre le moment du rapport sexuel et les moments efficaces de procréation, alors que les bêtes ont des systèmes comportementaux qui permettent de faire l'amour au bon moment. Bon, il y a beaucoup de raisons qui font que l'œuf humain est un œuf souvent déviant.
Mais alors à ce moment-là, vous dites que la nature répare les choses, en fait, d'une manière hasardeuse, semble-t-il, ou chaotique. Elle élimine les œufs qui sont les plus anormaux sous forme de fausse couche, en fait.
Ah oui, de façon tout à fait efficace, oui.
Alors, précisément, dans ce cas-là, on peut se poser aussi la question, qu'est-ce qui est déviance par rapport à quelles normes? Et est-ce que la déviance ne fait pas partie du vivant, précisément? Et que vouloir éliminer toute déviance, c'est précisément nier le vivant, la dynamique du vivant.
Absolument. Dans toutes les espèces aussi, les espèces qui ont eu leur chance au moment de bouleversement, de cataclysme, c'était certainement des espèces qui étaient mutantes, qui étaient sur la marge, et qui d'un seul coup se sont trouvées propriétaires d'un avantage qu'on n'aurait pas pu prévoir, mais qui peut se manifester plus tard. Donc on ne sait pas du tout ce qu'est le normal. Et en plus, là, on parle des animaux, c'est un peu du darwinisme, mais je crois qu'on ne peut pas appliquer le darwinisme à notre façon de gérer l'espèce humaine. On est dans l'humanité, il faut y rester, et on ne peut pas considérer que la déviance dans l'humanité doit être traitée de la même façon que chez les bovins. Quand vous avez un animal qui n'est pas convenable, vous le mettez à l'abattoir, vous évitez de le reproduire, pour éviter de propager l'étard. Il me semblait que dans l'espèce humaine, il fallait agir autrement.
Oui, alors précisément, lorsque vous réfléchissez, lorsque vous dites ce que vous dites ce matin, ce n'est pas le savant qui réfléchit en vous. Vous en êtes bien conscient, c'est le citoyen et le penseur.
Complètement.
Il n'y a aucune raison pour que, scientifiquement, il n'y a aucune raison scientifique pour que le scientifique en vous stoppe ses recherches. Est-ce que vous en êtes conscient?
Oui, au contraire, il y a même toutes les raisons pour continuer ses recherches si je parle comme scientifique. Mais il y a une ambiguïté que je vis douloureusement d'ailleurs. Depuis assez longtemps, depuis quelques années. Et par exemple, on me demande souvent dans la grande presse ou la presse médicale, est-ce que vous voulez nous dire, pour vous, qu'est-ce que c'est que la vie humaine? Bon, c'est une question à laquelle je ne peux pas plus répondre que vous, que n'importe qui. Si je donne une définition de la vie, elle s'applique aux mouches, aux grenouilles, à n'importe quoi. Mais la vie humaine, c'est pas un concept de biologie, c'est un concept social. Donc la vie humaine, elle est ce qu'on accepte comme étant à l'intérieur de l'humanité, du vivant, de l'homme. Et c'est quelque chose que moi je ne peux pas définir comme biologiste, que je peux m'autoriser à définir en n'étant plus biologiste. Et là, je sens bien l'ambiguïté, parce que est-ce que j'ai le droit d'avoir cette casquette de biologiste et de parler comme je le fais en un autre nom? C'est évident, c'est ambigu. Je ne cacherai pas que je profite de l'occasion qu'on me sollicite parce que je suis biologiste pour parler comme un non-biologiste et dire des choses qui me paraissent vraies en tant que citoyen.
Et c'est également parce que vous avez un certain pouvoir en tant que biologiste, que vous pouvez aussi parler comme ça à la
évidemment,
cité.
Mais puisqu'on m'interroge, j'en profite pour parler. Mais je dis très clairement que je ne parle plus là en tant que biologiste.
Alors précisément, vous dites une chose, c'est-à-dire que toutes ces expériences qui ouvrent des potentialités dont on ne mesure pas les conséquences aujourd'hui, toutes ces expériences faites sur l'œuf humain, pour vous, touchent à toute la chaîne des hommes. C'est-à-dire si on modifie, si on rectifie, si on sélectionne les œufs humains, cela aura des répercussions sur les individus adultes et sur tout le corps social.
Oui, parce que je crois qu'on ne peut pas toucher à l'humanité sans avoir des répercussions sur l'humanité, ne serait-ce qu'au niveau des fantasmes. Si dans 4 ou 5 ans, couramment, dans les hôpitaux ou dans les cliniques, on peut définir un profil d'enfant qui serait majoritaire, on pourrait le faire par sondage, que les gens souhaiteraient, parce qu'on pourrait reconnaître les œufs qui correspondent à ce profil, alors je dis que ce n'est pas seulement les œufs et les enfants qui en résultent qui vont changer, c'est toute l'humanité qui va propager ça. C'est toute la notion qu'on a de ce qu'on est, de nos origines et de l'avenir.
C'est-à-dire que toute la société devient programmée et que nous n'avons plus qu'un point de vue purement zoologique sur nous-mêmes.
Oui, c'est quelque chose qui nous arrive déjà par ailleurs, mais qui va s'aggraver très vite avec la génétique.
Vous savez que les grands textes mythologiques vous donnent raison, puisque dans les textes bibliques, comme par exemple dans le Livre des Justes et dans le Mahabharata indien, qui a été écrit à peu près à la même époque que le christianisme, chaque fois qu'il y a morcellisation des corps, il y a morcellisation du corps social et il y a la guerre. Chaque fois que l'on coupe un corps en morceaux, parce que finalement c'est ce qui se passe, cette procréation est faite par étapes et l'enfant devient l'enjeu de ces étapes, il y a état de guerre dans la société, dans la cité. C'est ce que vous dites. Enfin, vous faites sonner là quelque chose qui a des répercussions dans le corps social.
Il y a sans aucun doute l'état de guerre. Je pense que c'est une métaphore qu'on pourrait traduire autrement.
Oui.
Mais le corps social ne peut pas rester indemne s'il traite son œuf comme on traite un objet.
C'est-à-dire qu'il faut répéter sans cesse qu'il n'y a pas de morale en biologie. Il n'y a pas de morale biologique. Le fait moral est culturel et c'est précisément ce qui caractérise l'humain, ce qui en lui refuse d'être limité à l'espèce. Vous seriez d'accord avec ça ?
Complètement.
Alors, aujourd'hui, vous constatez dans votre livre aussi, dans une de vos conclusions, qui n'est pas du tout optimiste, je dois le dire, conclusion d'ailleurs qui va de pair avec la pensée de Michel Serres, qui avait préfacé votre livre « L'œuf transparent » il y a quelques années, c'est-à-dire la grande détresse de la pensée philosophique, le grand vide philosophique aujourd'hui pour penser cette situation qui est proprement impensable, semble-t-il.
Oui, effectivement, aujourd'hui on a beaucoup de mal à penser cette situation, mais c'est peut-être par manque d'audace des gens qui devraient la penser, c'est-à-dire qu'ils s'en remettent toujours aux scientifiques. Et on demande aux scientifiques de faire la philosophie ou d'aider les philosophes à faire la philosophie. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne voie. Il me semble qu'on n'a pas besoin des connaissances nouvelles qui existent sans aucun doute, on n'a pas besoin de ça pour savoir ce qu'on appelle l'humanité, comment on la considère et comment on veut la gérer. Oui. Les connaissances, c'est quelque chose qui permet de gérer, mais ce n'est pas quelque chose qui permet de savoir comment le faire.
Et d'autre part, vous dites bien qu'aujourd'hui, ce qui avance dans la science, ce n'est pas la connaissance, ce n'est pas la science fondamentale. Les concepts, finalement, théoriques ont très peu évolué ces 20 dernières années. Ce qui avance, c'est la technologie, c'est-à-dire ce sont les applications, ce n'est même pas la pensée scientifique.
Maintenant, ça nous ramène à votre première question. Aujourd'hui, les instituts de recherche ne sont pas faits pour élaborer des connaissances. Il peut arriver qu'à l'occasion de recherches appliquées, on tombe sur un concept fondamental qu'on n'avait pas prévu. Ça arrive de temps en temps. Donc il y a là un progrès de la pensée et de la connaissance qu'on a du monde. Mais le but n'est pas celui-là. Le but est de produire des technologies pour être compétitif. Donc c'est plus du tout la même chose.
Alors est-ce qu'aujourd'hui on assiste à une redéfinition de l'être humain ? Vous dites finalement toutes ces recherches représentent un saut qualitatif dans la science. On peut peut-être discuter de ce saut qualitatif. Peut-être qu'il s'agit là de la conséquence de la civilisation judéo-chrétienne qui place l'homme au centre de l'univers et qui autorise l'homme à utiliser cet univers comme il le souhaite, selon ses désirs et ses avatars. Est-ce que la définition de l'homme est aujourd'hui risque de devenir obsolète ? Faisons un petit peu de prédiction de science-fiction.
Elle risque, sans aucun doute, parce que à partir du moment où on va gérer l'espèce humaine comme un cheptel, comme un troupeau, comme on sait déjà le faire avec les animaux d'élevage, et c'est ce qui se dessine de plus en plus. Je vous rappelle que tous les traitements dont on parle là, qu'on fait sur des femmes stériles ou autres, sont des traitements qui ont été mis au point dans les productions animales. Pour les animaux d'élevage.
Oui, et aujourd'hui, il y a même un renversement, c'est-à-dire que les éleveurs utilisent vos connaissances pour les animaux.
Oui, effectivement, il arrive que la thérapeutique humaine devienne un terrain privilégié d'expérimentation pour mettre au point des méthodes utilisées dans les productions animales. Je pense que ça va arriver de plus en plus, ne serait-ce que par le fait qu'il y a une forte demande des gens de venir dans les hôpitaux et même de se prêter à des expérimentations qui sont tout à fait économiques. On ne peut pas détailler ce point, mais si vous voulez, dans mon équipe de recherche, on travaille aussi sur le singe. Mais travailler sur le singe pour n'importe quoi, ça coûte très très cher. Vous pouvez faire la même chose dans l'espèce humaine, ça ne coûte rien. Voire ça rapporte, parce que l'industrie pharmaceutique souvent finance les programmes de recherche avec leurs molécules.
Ça signifie consentement libre et éclairé, entre guillemets, de l'individu, ce qui est totalement faux, puisque ce consentement est lié à une fascination devant la science.
Complètement, ce n'est pas possible. Le consentement libre et éclairé, c'est un mot qu'on a mis devant pour cacher autre chose. Il est vrai que les gens sont d'accord, ils peuvent signer un papier, mais dans quel état sont-ils au moment où ils le font ? Ils sont dans un état de dépendance totale.
Alors là, vous tirez encore une autre sonnette d'alarme, c'est-à-dire que ce sont des malades au stade terminal, je suppose que vous
non,
pensez.
Non, pas forcément.
Mais enfin, qui sont en grande détresse, en tout cas, ou psychologique, ou morale, ou physique.
Alors ça arrive, mais je ne connais pas ce secteur, mais je sais que ça arrive. Moi, je parle dans le cadre des procréations artificielles, de gens qui viennent parce qu'ils ont un problème de fertilité divers, et sur lesquels on peut chercher à connaître des choses nouvelles, à tester des nouvelles molécules, avec leur accord, sans aucun problème.
Bon, alors ça signifie quelque chose de très important, parce que tout ce que nous venons de dire là, qui en fait conteste un certain nombre de recherches qui sont faites dans les laboratoires, ce que nous venons de dire finalement risque de choquer beaucoup de gens qui nous écoutent en ce moment, c'est que les mentalités ont changé. Les mentalités sont prêtes à accepter ce type d'expérience parce que les mentalités veulent la qualité de la vie, ce qui est un terme extrêmement ambigu, et elles veulent un produit de plus en plus perfectionné, rentable, parfait, l'enfant comme produit. Et je crois que vous risquez de choquer justement, précisément, parce que les mentalités sont prêtes à recevoir cela.
Je suis tout à fait conscient. Vous m'avez dit tout à l'heure que je suis pessimiste. C'est juste, je ne le fais pas exprès. Mais je suis pessimiste, je suis bien d'accord avec ce que vous dites. Les mentalités sont en train d'évoluer très vite. Il suffit de voir un sondage qui est paru dans un grand hebdomadaire il y a 2-3 semaines.
Oui, l'Express. Oui,
oui qui demandait aux gens qui devaient, dans le corps social, décider des pratiques, on peut dire, au niveau de l'éthique. Mmh. Bah, est-ce que ça doit être légiféré, justement? Les gens ne sont pas très chauds pour que les députés décident. C'est-à-dire, ils acceptent que les députés fassent le tracé d'une autoroute ou des choses comme ça, mais ne prennent pas en charge ce qui est quand même vraiment la vie dans la cité. Au bout du compte, c'est forcément aux politiques qu'on a élus de décider. Bon, ça c'est mon avis. Ils pensent que ça n'est pas non plus un comité d'éthique, même un comité national. Et ils disent que c'est aux médecins de décider au cas par cas, c'est-à-dire le n'importe quoi, la confiance absolue justement devant la blouse blanche. C'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup.
Alors, dernier point, pour conclure momentanément, je signale à nos auditeurs qu'ils peuvent nous appeler juste après l'émission, hein, au 42 30 19 19, et Jacques Testard répondra tout à fait d'une manière précise et amicale à leurs questions. Vous dites dans votre livre que savoir et pouvoir, tel qu'il s'est développé aujourd'hui, est lié à une, en quelque sorte, un pouvoir phallique. C'est-à-dire, vous utilisez beaucoup de métaphores qui mettent en jeu la virilité. Et vous dites qu'il s'agit là d'une volonté de puissance phallique.
Oui, parce qu'il s'agit d'une volonté de maîtriser la nature, de maîtriser le monde, pas seulement parce que dans ma spécialité, elle s'exerce surtout sur les femmes, mais peut-être qu'effectivement, ça rend sensible
le corps des
à cette
femmes.
Métaphore. Oui. Mais il s'agit effectivement, la maîtrise, c'est une notion complètement virile. Et je pense qu'il s'agit là d'une activité spécifiquement masculine, même si certaines femmes y participent, hein, ou applaudissent. Hein. Mais il s'agit là d'une vue du monde qui est une vue virile.
Et vous en faites appel à certaines femmes pour essayer de dire autre chose dans la cité?
Mais je constate que dans les discussions que j'ai avec beaucoup de monde à l'extérieur de la profession, c'est surtout les femmes qui montrent une plus grande... Je dis pas toutes, hein, mais c'est chez les femmes que je trouve la plus grande sensibilité à ces problèmes-là.
Eh bien, je vous remercie, Jacques Testard, d'être venu réfléchir avec nous. Nous entendons en ce moment une voix. Et une voix qui est peut-être justement le signe de ce qu'est profondément l'humanité, cette humanité qui est aujourd'hui en péril selon vous. Je vous signale que demain nous continuerons la réflexion sur notre série avec une émission qui s'intitulera « Du miroir à la glace, la quête des origines et la prédiction du destin » avec deux psychanalystes qui travaillent dans la même équipe que vous, avec Monette Vaquin et Robert Higgins. Le texte que vous avez entendu est un texte lu par Claude Berman et issu de Clarice Lispector, pardon, qui était la passion selon GH. Je vous signale également que Pierrette Perronneau était la réalisatrice de l'émission, à la technique Sylvain Geoffroy. Donc nous attendons vos coups de téléphone au 42 30 19 19.
Merci Marie-Christine Navarro. France Culture, il est 9h. En raison d'un arrêt de travail de certains journalistes, nous ne sommes pas en mesure de diffuser le journal d'information. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser.